se glisse dans un fauteuil rouge où on reste debout, là, ici, sur la place la plus mythique du Maroc. Les neiges de l'Atlas au loin, des centaines de regards tournés vers le même écran pour partager ensemble la même émotion. Et puis tous ces noms qui font rêver et les yeux qui pétillent quand on nous dit qu'ils viennent d'arriver en ville. Francis Ford Coppola, Robert De Niro, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Sean Connery, Youssef Chahine, Charlotte Rampling, John Malkovich, Shah Rukh Khan, Alan Parker, Ridley Scott, Jeanne Moreau et tant d'autres. Ils sont tous passés par Marrakech. Le Festival International du Film commence vendredi prochain, média partenaire de l'événement comme chaque année. Soyez les bienvenus dans cette émission. On regagne son fauteuil, on éteint son portable. Pas de pop-corn, ça fait grossir et puis ça horripile le voisin d'à côté. Installez-vous bien, la projection commence. Ce dimanche, c'est la 256e séance de Bain de Culture.
Avec David Labo.
Et pour commencer, on jette un coup d'œil dans le rétro avec Magali Homo, l'histoire du festival de Marrakech.
Marrakech et son festival, l'histoire remonte à 2001. La première édition est lancée le 28 septembre, deux semaines seulement après les attentats qui ont frappé l'Amérique. Il faut se remémorer le climat à l'époque. Aux États-Unis, certaines compagnies d'assurance interdisent aux acteurs de voyager. Des invités internationaux annulent leur venue. Pas de quoi décourager le Maroc, le festival est maintenu. Et cette résilience, elle va payer. Dès l'année suivante, 2002, les Américains sont là, à commencer par Francis Ford Coppola. Le rendez-vous s'installe, prend de l'ampleur, devient incontournable. Une parenthèse en 2017 pour repenser le positionnement. Une nouvelle équipe, de nouvelles énergies. La pause est salutaire. Le festival renforce les liens avec le public. Une programmation exigeante sans être élitiste. Cette année, le festival fête ses 18 ans. On dit que c'est l'âge de la majorité. Pour Marrakech, c'est plutôt celui de la maturité.
Voilà, Magali Homo, 9 personnalités composent le jury cette année. Elles viennent de 5 continents différents. C'est un festival plus que jamais international. L'actrice et productrice Tilda Swinton comme présidente. 14 films en compétition, 5 réalisés par des femmes. Pour la première fois, un film d'animation fait partie de cette sélection. Bombay Rose, un film indien. Et puis un film marocain, Le Miracle du Saint Inconnu. Le premier long métrage de Alaaddin Aljem. Nous serons en ligne avec lui dans quelques instants. Pour l'instant, une petite pause musicale. La musique du film Amen de Costa Gavras. Et dans un instant, nous sommes avec ce réalisateur marocain. Son premier film est le seul film sélectionné cette année dans le Festival de Marrakech. À tout de suite. Originale du film Amen de Costa Gavras. Merci d'être avec nous ce dimanche. Alaaddin Aljem, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 31 ans, vous êtes né à Rabat, des études de cinéma à l'ESAV, l'école supérieure des arts visuels de Marrakech. Vous avez fait partie de la première promotion. L'INSAS ensuite, une école supérieure des arts du spectacle en Belgique. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages, puis votre premier long. Et c'est pour cela que l'on se parle ensemble ce dimanche. Si vous deviez le présenter, le définir en une ou deux phrases, que diriez-vous ?
C'est un peu compliqué, mais allez, je me lance. Je dirais que Le Miracle du Saint Inconnu, c'est une fable burlesque, un récit aux allures de conte moderne qui se déroule en huis clos dans un désert. C'est l'histoire d'un jeune voleur qui vole une grosse somme d'argent et qui, suite à un quiproquo, un mausolée pour un saint dont on ignore le nom a été construit dessus et se retrouve obligé de cohabiter avec des villageois voisins de ce mausolée et chercher à récupérer son argent.
Parce que c'est ça en fait, le début du film, c'est, on voit un homme qui sort d'une voiture, il monte au-dessus de cette colline, il enterre une somme d'argent, on comprend que cet argent il l'a volé, il part en prison pour cela parce qu'il est rattrapé par la police et à sa sortie, évidemment il veut récupérer son butin, il va sur cette colline, il découvre que l'on a construit un mausolée à l'endroit précis où il avait enterré ce sac plein d'argent. Bon, ça c'est le prétexte, on raconte pas hein, l'histoire du film, on raconte pas
non,
notamment ce serait pas intéressant.
C'est le point de départ.
C'est le point de départ. On ne dit pas s'il va récupérer l'argent, on ne dit pas comment il va s'y prendre, peu importe. En tout cas, vous décrivez tout autour de ce mausolée une micro-société et là, il y a une galerie de personnages.
Voilà, c'est ça. En fait, dans ce petit village où il va s'installer, il va croiser pas mal d'autres personnages qui sont là. Et puis, dans le film, voilà, à chaque fois, on a plusieurs petits récits là-dedans qui s'entremêlent, qui se croisent et des personnages un peu, tous un petit peu décalés, un peu excentriques et chacun dans son propre univers, mais tous forment un grand portrait et tous cohabitent à la fois dans ce lieu-là. Il y a une unité géographique, on est tout le temps dans le même village, dans le même désert, mais également sont tous un petit peu confrontés à des questions de croyance et de foi, que ce soit la foi en une pluie qui tombe pas, la foi en un butin qui nous appartient, qu'on n'arrive pas à récupérer, la foi en un saint qui n'en est pas un, mais que ça nous arrange d'y croire. Et puis voilà, ils vont croiser leur chemin et se retrouver tous dans des situations un peu absurdes.
Une comédie absurde, une fable burlesque, voilà. Vous le dites, on ne se moque pas des gens, on rit avec
non,
eux.
Voilà, ça c'est important, c'est-à-dire que tous les personnages sont aimables, on ne se moque absolument pas des gens, on ne se moque pas des croyances des gens, on ne rit pas d'eux, on rit avec eux, on rit des situations et tous les personnages sont aimables, personne n'a raison, personne n'a tort, c'est plus complexe que ça, il n'y a pas les bons et les méchants dans le film.
La scène se déroule en plein désert, vous l'avez dit, c'est un choix fait pour l'esthétique, les paysages, la lumière, ça fait de belles images après à l'écran le désert.
Bah, à la fois, c'est un choix à la fois esthétique, c'est aussi un choix dicté par la nature du récit, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans un coin reculé, ça ne peut pas se dérouler en ville, ça doit se dérouler dans une micro-société, du coup, il faut un coin isolé, le désert s'y prête très bien, et puis esthétiquement, j'ai déjà tourné deux, trois fois dans ce désert-là. Et puis j'aime beaucoup moi ce rapport entre des corps qui bougent dans un espace extrêmement étendu, extrêmement aride aussi. Ce rapport entre la grandeur de la nature et la petitesse de l'homme. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage très très bien là-dedans. Et puis c'est très stimulant à filmer, à mettre en scène, à mettre en cadre. Et donc voilà, c'est un choix à la fois dicté par la nature du récit, la nature du film, les besoins du film, et aussi par des choix esthétiques, des choix de goût. D'ailleurs dans le film il y a pas mal de petites références au western. Parce que dans ce village-là, bien évidemment, il y a un petit côté un peu Far West, village qui surgit de nulle part, qui vit par l'activité économique que génèrent les pèlerins qui vont venir de tout le pays visiter ce nouveau saint, ce nouveau mausolée. Et on joue avec ça aussi, à la fois dans le film, dans le récit, mais aussi dans l'esthétique, en allant chercher des plans par moments qui font référence à des vieux westerns ou à des westerns spaghetti.
Alaeddine, votre film Le Miracle du Saint Inconnu avait été présenté à Cannes à la semaine de la critique. Il avait fait l'ouverture, un bon accueil, très bon accueil. Le Monde, le journal de référence en France, parlait d'une puissance esthétique et politique, un humour décalé à la Coris Maki, une belle découverte. Il a ensuite été présenté dans d'autres festivals. Qu'attendez-vous de celui de Marrakech ?
Écoutez, le film passera au Festival de Marrakech dans quelques jours. Ça va être la première marocaine, mais aussi la première du monde arabe. Le film a été invité et demandé par plusieurs festivals dans le monde arabe et on a choisi et préféré être à Marrakech parce que, à la fois, bon, c'est chez nous. Puis, il y a aussi un impact médiatique au Maroc assez important autour du festival du film de Marrakech.
Vous êtes l'enfant du pays ?
Je suis non seulement enfant du pays, mais moi, je suis enfant du pays. J'habite à Marrakech, j'habite dans le même quartier que le Palais des Congrès. Donc, c'est le festival de Marrakech, c'est vraiment chez moi. Et puis c'est un festival que moi j'ai suivi, vu le fait que j'habitais à Marrakech, que j'étudiais à Marrakech, que je suivais depuis très longtemps. Du coup, j'y allais en tant que festivalier et un peu plus tard en tant que professionnel. Et maintenant, j'y vais pour présenter mon film. Et vu que la sortie marocaine s'approche aussi, c'est important aussi de bénéficier de l'aura médiatique à le festival de Marrakech pour faire parler un peu du film au Maroc, le faire connaître au public en attendant sa sortie en salle.
Et la sortie en salle, vous me le disiez, ce sera le 1er janvier.
En France, le 1er janvier. Au Maroc, ça sera le début de l'année, mais on n'a pas encore la date exacte.
On n'a pas encore la date pour le Maroc, entendu. Ouais. Le miracle du Saint Inconnu de Alaeddine Al-Jem. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce dimanche.
Merci à vous.
Bain de culture, bain de culture, bain de culture, cinéma.
Après l'Espagne, après l'Italie, l'Égypte ou encore le Mexique, c'est au tour de l'Australie d'être à l'honneur au Festival de Marrakech. Bonjour Nathan Chaudet.
Bonjour David.
De nombreux acteurs et réalisateurs australiens arrivent dans la ville ocre avec dans leur valise quelques pépites.
Oui, exactement. Alors au premier abord, l'Australie, c'est pas forcément un pays qui brille par sa culture, que ce soit la musique, la nourriture ou le cinéma d'ailleurs. Ce qui n'empêche pas que des films majeurs ont été produits là-bas et ça tombe bien, il y en a deux qui sont projetés au festival. On a Waking Fright, d'abord un film magnifique sur les ravages de l'alcool dans une petite ville isolée de l'Australie. De la sueur, de la poussière et de la bière, il n'y a rien d'autre ici. C'est le slogan du film. Extrait.
Will you have a drink?
No, I'm touring with this one, thanks.
Well, drink it down, I'll buy another.
Look, I'm flat broke and I can't afford to drink.
What's that gonna do with that man? I said I'd buy you a drink. You don't have to buy me one. Now drink it down.
Voilà, c'est un film réalisé par Ted Kotcheff à qui l'on doit aussi la saga Rambo. Autre œuvre majeure présentée lors de ce festival, c'est Mad Max évidemment, et l'histoire d'un policier solitaire incarné par Mel Gibson qui, au volant de sa fameuse Interceptor, se bat avec des gangs de motards dans une Australie post-apocalyptique.
Je suis l'aigle de la route. Je suis une machine infernale à injection. Je suis avec ma nana.
Voilà, ça sent l'huile de moteur et la poudre à canon. Les courses-poursuites sont hallucinantes. Elles sont réalisées sans effets spéciaux. Et Mad Max, c'est un film qui n'a pas seulement fait date dans le cinéma australien, mais c'est un film qui a marqué le cinéma mondial. Ce premier opus, finalement, a plus ou moins créé le genre post-apocalyptique. C'est Mad Max, par exemple, qui influence Waterworld ou Walking Dead ou les dernières versions de La Planète des Singes. Et dans ces deux films donc qu'on vient de citer, on retrouve ce qui fait la force du cinéma australien. Ce sont les paysages, le fameux bush, les grands déserts arides, les routes interminables. Ce sont des paysages immenses et presque extraterrestres qui ne demandent qu'à être exploités. Ils se prêtent très bien à des aventures épiques. Ces paysages sont un personnage d'ailleurs à part entière. Ils amènent cette ambiance pesante, étouffante de chaleur. Ça joue même sur le caractère des protagonistes qui sont souvent durs parce que forgés par ce climat inhospitalier. On peut citer Mad Max, dans Mad Max, mais aussi toute la famille Cody, les braqueurs d'Animal Kingdom. Encore un film qui sera projeté à Marrakech.
Voilà, les grands espaces, on en parlait il y a un instant avec Alaeddine Al-Jem. Effectivement, ça fait toujours de très belles images. Nathan, l'Australie, c'est également un vivier de talents. De nombreux acteurs australiens ont ensuite fait carrière à Hollywood.
Oui, exactement. On a par exemple Hugh Jackman, alias Wolverine, Heath Ledger, l'immense Joker dans The Dark Knight, Russell Crowe, que vous connaissez plus sous le nom de Maximus Decimus Meridius, le général romain dans Gladiator, ou encore Nicole Kidman, qu'on ne présente plus. Alors, ce sont tous des acteurs qui ont fait carrière aux États-Unis, pas en Australie où le marché reste encore trop petit, mais ils sont tout de même de plus en plus nombreux à mettre la pression aux producteurs hollywoodiens pour que les films soient tournés en Australie. Il y a d'immenses studios qui ont été inaugurés à Sydney au début des années 2000. Le pays a su s'adapter à l'ère numérique. Il est devenu un endroit privilégié pour tourner des films en images de synthèse ou sur fond vert. Matrix, Star Wars 2 et 3 ou encore Mission Impossible ont en partie été tournés là-bas. C'est aussi le cas de Gatsby le Magnifique, réalisé par l'Australien Baz Luhrmann, et Tu ne tueras point, réalisé par le tout aussi Australien Mel Gibson. Donc si l'Australie peine parfois à imposer son identité cinématographique et à faire émerger des auteurs qui restent faire carrière sur place, le pays a tout de même su devenir un territoire attractif pour les productions étrangères.
Nathan Chaudet avec nous dans Man Culture. Nathan, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, on va parler avec vous des personnalités invitées cette année à Marrakech, notamment le réalisateur français c'est Bertrand Tavernier. Pour l'instant, un petit peu de musique. City of Stars.
City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams, they finally come true. City of stars, just one thing everybody wants.
Quand on a tous les talents, la belle voix de Ryan Gosling, City of Stars, extrait du film La La Land.
Midi, hein, bain de culture avec David Labo.
On continue à parler du Festival de Marrakech ce dimanche. Nous sommes en ligne avec Ali Hagi. Bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes coordinateur général, membre du comité de sélection. Vous faites partie de la nouvelle équipe qui pilote l'événement depuis 2 ans. L'une de vos préoccupations, c'est de favoriser les rencontres entre les acteurs du monde du cinéma, les comédiens, les comédiennes, les réalisateurs et le public, les spectateurs. Il y a ce que vous avez appelé rencontre avec. Ça avait bien marché l'an dernier. Du coup, vous renouvelez l'expérience et vous l'étoffez.
Absolument. On a 11 conversations cette année contre 7 l'année dernière. Donc, c'est vraiment un programme qu'on a tenu à intensifier cette année pour permettre au public d'aller à la rencontre de très grands talents du cinéma mondial, donc que ce soit des acteurs, des réalisateurs ou des producteurs, qui vont venir à Marrakech pour participer à des conversations qui sont pour la plupart d'accès libre au Palais des Congrès et organisées avec tout un tas de talents qui viennent du monde entier. Évidemment, les plus connus sont Robert Redford, donc le légendaire réalisateur, producteur et acteur américain, qui va faire une conversation au Palais des Congrès dans le cadre du festival. Mais on a aussi d'autres acteurs comme Marion Cotillard, Harvey Keitel. On a le réalisateur palestinien Elia Souleiman, le réalisateur italien Luca Guadagnino, qui s'est distingué ces dernières années avec le film « Call Me By Your Name ». On a également des rencontres avec des producteurs, donc je pense notamment au producteur britannique Jeremy Thomas, qui est un très grand producteur, qui a travaillé au Maroc d'ailleurs avec Bernardo Bertolucci, puisqu'il avait produit un thé au Sahara à la fin des années 80, et aussi plus récemment, il a collaboré avec Jim Jarmusch, qui avait tourné Only Lovers Left Alive à Tanger. Voilà, donc on a 11 conversations au total avec 12 talents qui viennent du monde entier pour rencontrer le public de Marrakech.
Beaucoup de films projetés comme chaque année, beaucoup de sélections, on ne peut pas toutes les énumérer, mais il y a celle-ci, elle s'appelle Le 11e continent, l'occasion de voir un cinéma différent, c'est pour ça que vous l'avez appelé ainsi, 11e continent.
Oui, c'est ça, c'est complètement ça. En fait, ce qu'il faut d'abord préciser peut-être par rapport à Marrakech, c'est que vraiment c'est un festival qui prône une très grande diversité de choix. Donc, c'est-à-dire qu'à Marrakech, on peut voir à la fois un cinéma extrêmement pointu, comme ce qu'on peut découvrir dans le cadre du 11e continent, mais aussi des films d'auteurs plus grand public, et ça va jusqu'à des films de divertissement, etc. Et je pense à ce qu'on montre sur la place Jamel Al-Fna. Donc, il y a vraiment toutes ces couleurs, toutes ces tonalités, tous ces types de cinémas qui sont montrés dans le cadre du festival. On a 99 films au total de 34 nationalités. On est vraiment sur une très très grande diversité, donc ça c'est important à souligner. Pour revenir au 11e continent, effectivement c'est une section qui a été créée pour aller vers un cinéma de recherche, un cinéma innovant qui explore des nouveaux territoires. Et l'idée c'était de montrer justement à un public cinéphile averti, peut-être un peu plus pointu que celui qui va dans les autres salles, donner à ce public-là la possibilité de découvrir ces films qui sont des films de recherche, des films qui sortent de l'ordinaire. Et ce qu'il y a d'important aussi à souligner, pas simplement par rapport à cette section, mais à certaines autres aussi, c'est que à la fin de chaque projection, il y a des débats avec les équipes de films. Donc l'année dernière, c'est quelque chose qu'on avait instauré, donc les présentations et débats à l'issue des films, et qu'on a beaucoup intensifié cette année. Et on encourage le public à venir parce que c'est vraiment des occasions rares d'échanger avec les équipes de films. Donc c'est cette proximité-là aussi que prend le festival.
Un aspect moins connu du grand public, mais très important, c'est l'aspect professionnel. Vous donnez un coup de pouce aux jeunes réalisateurs. Cela se fait dans le cadre de ce que vous avez appelé les ateliers de l'Atlas.
Absolument. C'est la plateforme industrie du festival qui a été créée l'année dernière, justement pour venir en aide aux jeunes réalisateurs de la région. Donc, c'est dédié aux réalisateurs du Moyen-Orient et d'Afrique qui font des premiers, deuxièmes, troisièmes longs métrages. Donc, l'idée, c'est de soutenir des films qui sont en développement. Donc, il y en a 10 cette année. Et ces projets ont droit au soutien de professionnels internationaux et concourent à des prix, en fait. Donc, il y a une dotation qui est de 60 000 euros au total, quand on comptabilise tous les prix, et qui permettent à ces porteurs de projets, justement, d'une part, de bénéficier de conseils de professionnels internationaux, d'autre part, de concourir au prix que proposent les ateliers d'Atlas, et enfin, de rencontrer tout un parterre de financiers possibles, puisqu'on invite des producteurs, des gens qui mettent de l'argent dans les films.
Une chose à préciser encore peut-être, Ali, on l'a déjà dit, mais c'est important de le rappeler, de le préciser, c'est que le festival de Marrakech n'est pas que pour quelques privilégiés. Vous incitiez le public à venir tout à l'heure. Rien de plus simple, en fait, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire sur le site du festival, c'est ça?
C'est très simple, il faut absolument diffuser ce message à très large échelle. Le festival est gratuit et accessible à tous. Donc il suffit en quelques clics de s'accréditer via le site internet ou alors de se rendre sur place au Théâtre Royal à Marrakech où il est très simple d'obtenir une accréditation, donc un badge qui donne accès à toutes les activités du festival, que ce soit les conversations dont j'ai parlé tout à l'heure ou les projections de films.
Merci Ali Hagi. Il y avait un petit bruit de parasite autour de vous pendant notre conversation. C'est simplement parce que, en fait, vous êtes sur place à Marrakech. Actuellement, vous préparez activement cette 18e édition. C'est la dernière ligne droite.
C'est la dernière ligne droite. Donc, on est impatients de pouvoir démarrer les festivités.
Merci Ali. Merci. Bon festival. À bientôt.
Merci David. À bientôt. Quando la gente poi uscì dai teatri, fumo e rose coprì i nostri passi, che contammo di baci mai dati. Io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio. Dan quadro la data ciò che non c'è, sorridendo penso ancora di te che ti amo, tanto lontana non so se sarai, tanto vicino ascoltarmi potrai, come me nessuno dirti saprà, io ti amo.
Fluvio, c'est le titre de cette chanson de Richard Cochent. Frisson garanti. Merci d'être avec nous. En ce dimanche, bain de culture, toutes les semaines, on continue à parler de ce festival de Marrakech. On a des rencontres, ou plutôt des discussions libres cette année encore. 12 personnalités du cinéma invitées pour échanger avec le public, partager leur expérience. On en parlait avec Ali Hagi il y a un instant. Parmi elles, donc, Robert Redford, excusez du peu, Marion Cotillard, Hervé Kettel, Roche Dizem, ou encore donc Nathan Chaudet, Bertrand Tavernier.
Et c'est un petit peu la masterclass à ne pas manquer cette année, puisque je rappelle que Bertrand Tavernier, pourquoi lui? Parce qu'en plus d'être un réalisateur accompli, c'est à lui qu'on doit L'Horloger de Saint-Paul, ou plus récemment Quai d'Orsay. C'est aussi un historien du cinéma, une véritable encyclopédie. Il fait partie de ces réalisateurs qui ont suivi l'évolution du 7e art, un peu comme Scorsese ou Tarantino, qui eux aussi sont des vrais drogués de l'image. Tavernier, il a d'ailleurs été critique avant de prendre la caméra, et en 2017, il a même sorti un documentaire appelé Voyage à travers le cinéma français, un hommage de 3h15 qui rassemble près de 100 films majeurs, tous commentés par Tavernier lui-même. Écoutez justement très rapidement comment il parle de cinéma, Tavernier.
Il faut faire un film en se disant on va arriver à faire changer le cours de l'histoire, et en même temps il faut avoir l'humilité de penser que si on touche deux personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire.
Voilà, Tavernier, qui est un touche-à-tout, c'est aussi, je le rappelle, le co-créateur du Festival Lumière qui se tient tous les ans au mois d'octobre à Lyon. Un festival, là encore, connu pour ses rétrospectives. Cet événement, il se tient en grand partie à l'Institut Lumière, à côté de la maison de Louis et Auguste Lumière, les deux frères qui ont tout simplement inventé le cinéma. Tavernier, donc, il baigne dans cette mythologie. Donc, pour ceux qui ont la chance d'être à Marrakech le mardi 3 décembre, foncez voir Tavernier et submergez-le de questions, il aura probablement toutes les réponses.
Bon, le conseil est entendu. Merci beaucoup, Nathan Chaudet.
quotidien. Bain de culture avec David Labo.
Et ce dimanche, c'est un spécial cinéma après le Maroc direction la France dans cette deuxième partie où se tenait ces derniers jours le festival du film franco-arabe. Cela se passe à Noisy-le-Sec en région parisienne. Les films franco-arabes, ça nous intéresse forcément ici à Bain de Culture. Alors on a appelé Aurélien Devernois, l'un de nos correspondants dans la capitale française, et Aurélien est allé y balader son micro. On le retrouve dans un instant. Pour l'instant, c'est la musique, et là encore, c'est une musique présente dans un film. The Weeknd présente dans le film Fifty Shades of Grey. À tout de suite. I'm never confused.
Living our lives. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'm a care for you, you, you. I'm a care for you, 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 you. Yeah.
Incomparable de The Weeknd, And It, extrait de la bande originale du film 50 Shades of Grey, 50 nuances de grey en français.
Bain de culture, cinéma.
Je revis comme j'en ai envie.
Ce que vous entendez actuellement, ça a été enregistré il y a quelques jours par Aurélien Devernois dans le cinéma Le Trianon, un très beau cinéma de la région parisienne à Noisy-le-Sec. C'était à l'occasion du festival du film franco-arabe. Cette manifestation a un frère jumeau en Jordanie. Ces deux festivals veulent tisser un lien culturel fort entre ces deux parties du monde. L'idée, c'est de faire découvrir au public les productions cinématographiques les plus actuelles des cinéastes originaires des pays arabes et ceux français qui ont une part importante de leur parcours et de leurs préoccupations liée au monde arabe. Ce festival s'est achevé mardi dernier en France. Parrain de cette 8e édition, l'acteur et réalisateur français Yacine Azouz, qui vient d'ailleurs de terminer un tournage à Tanger, Aurélien Devernoy l'a rencontré pour Bain de Culture. Yacine Azouz s'est fait remarquer dans Désintégration, un film de Philippe Faucon, ou encore dans Les Derniers Parisiens d'Amé et Ekwe, où il apparaissait aux côtés de Reda Kateb et de Mélanie Laurent. Yacine Azouz, au micro d'Aurélien.
Ce festival de cinéma, il est quand même assez particulier, il est assez unique en Ile-de-France, en France même. Pourquoi vous avez décidé d'être le parrain de cette édition ?
En fait, j'ai une super expérience déjà dans un premier temps. En fait, je voulais déjà rappeler que moi, j'avais joué dans le film de Philippe Faucon, La Désintégration. Et en fait, il avait été sélectionné ici pendant le festival. Et j'ai eu un super souvenir, on m'a invité en Jordanie, j'étais jamais allé avant. Ils ont projeté ce film, La Désintégration, sur le rooftop, sur des vues incroyables de Amman. Et c'est un souvenir de malade. Et quand je suis revenu en France, on m'a proposé d'être jury, ce que j'ai accepté. Et puis, genre 2 ou 3 ans après, on m'a contacté, on m'a proposé d'être parrain cette fois. Parrain, et je pouvais pas refuser, puisqu'en fait, les gens qui vont écouter ça ne vont pas entendre, mais on est dans une super salle, qui est le Trianon. Et c'est le cinéma de la dernière séance d'Eddie Mitchell. Moi, je suis un enfant des années 80, et tous les mardis soirs, je regardais les films. Et être là, c'est un endroit très, très spécial. Et donc, voilà, je pouvais pas dire non, évidemment.
C'est un bon tremplin pour les jeunes réalisateurs, pour des gens qui ont aussi envie de se faire un nom et qui n'ont pas forcément la possibilité de rentrer dans le circuit traditionnel.
C'est exactement la plateforme parfaite pour avoir des contenus et des films qui ne sont pas forcément subventionnés par des régions ou qui ne sont pas forcément, je dirais, dans le format ou dans les codes de ce qui est présenté dans les commissions françaises. Notamment des films avec réalisés par des gens nord-africains, du Moyen-Orient, qui ont un cinéma à raconter qui est très différent, qui reste très universel, mais en même temps qui parle de thématiques qu'en France on n'a pas vraiment l'occasion de voir. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les films qu'on a pu voir, ils sont tous d'une qualité et il y a une vraie vision derrière, et ça, c'est une vision que... Voilà, je suis content qu'on ait un festival comme ça qui puisse mettre en lumière les choses qui puissent nous unir. Et là, j'ai vu chaque histoire m'a bercé. Et ça, je suis content de le voir ici en France. Du coup, on est quand même à l'avant-garde d'une ligne éditoriale de films qui, je pense, vont donner naissance à des réalisateurs qui vont faire beaucoup de films prometteurs.
Oui, parce qu'il y a toute une nouvelle génération de réalisateurs aujourd'hui en France qui est en train d'émerger. Vous parliez tout à l'heure des Misérables de Ladjli. Ça, c'est aussi une belle réussite de ce qui peut se faire en dehors des circuits traditionnels.
Ouais. Et c'est surtout donner la parole à des gens qui ont des belles histoires à raconter, mais qui ne sont pas issus d'une case de famille, de cinéma, ou qui n'ont pas... Enfin, moi, je viens de réaliser et produire une série, une saison entière, de 2 épisodes à dimension internationale, et en fait on n'est passé par aucune région, on a dû être de financer tout ça de manière très très indépendante, et du coup le fait des fois d'avoir un peu moins d'argent nous aide à nous creuser la tête et à avoir beaucoup plus de ressources et de jouer du réseau pour obtenir certaines choses, et donc du coup on raconte les histoires de manière très très différente et très originale. Ça aide en ça aussi, cette nouvelle génération. C'est une génération de débrouilles, de gens qui ont regardé beaucoup de courts-métrages, qui en ont fait beaucoup, et c'est les millennials. On mange tellement de contenu qu'aujourd'hui, c'est très naturel pour nous de filmer notre histoire ou de filmer nos histoires.
L'un des gagnants, Ashraf Ajraoui, disait c'est aussi le moyen de montrer des gens qu'on ne montre pas, que ce soit dans du court ou dans du long. Et notamment, lui disait les jeunes franco-arabes.
Oui, c'est vrai. Alors, on n'est pas le pire en France. faut quand même le dire. On n'est pas le haut du panier. C'est clair qu'en termes de diversité, les États-Unis ont une énorme longueur d'avance, ou avec des moyens qui sont déployés, mais ici quand même ça commence à bouger, ça commence à avancer. On parlait de Ladjli et son film, et on voit clairement que l'urbain est devenu très pop. C'est populaire aujourd'hui de parler d'urbain, que ce soit dans la musique. Le rap, c'est la musique qui se vend le plus en France, qui se vend le plus dans le monde. C'est juste que les canaux de médias principaux ne mettent pas en avant ça parce que les gens qui tiennent ces médias ne sont pas forcément issus de cette culture. C'est même plus une question de couleur ou d'épiderme ni quoi que ce soit. C'est une question de culture maintenant.
Et de génération.
Et de génération et de caste aussi. Mmh. Il y a ce rapport générationnel. Mais ça change parce que, en fait, on ne peut pas se battre contre le sens du vent. Aujourd'hui, on est tous issus d'une culture pop, américaine, musique, jeux vidéo, ça rentre quoi qu'il arrive. Et en fait, ce genre de festival, moi je trouve ça très grave que ça soit pas la mairie de Paris qui le fasse. Tant mieux pour la ville de Noisy-le-Sec et Romainville qui partagent cet endroit et qui sont du coup eux à l'avant-garde pour mettre en avant ce genre de choses. Et avec un parrain d'honneur comme Costa Gavras et une marraine comme Sabrina Ouazani, je me sens hyper fier et honoré qu'on ait pu me proposer ce titre honorifique. Je ne cracherai pas dessus et jamais, au grand jamais.
Voilà, Yacine Azouz, parrain de ce festival cette année. Vous restez avec nous dans un instant, rencontre avec un autre réalisateur, Ashraf Ajraoui, prix du public avec son court-métrage Ashuma. Pour l'heure, un souvenir, Banksy Beat, Small Town Boy. La version remixée pour les besoins de 120 battements par minute, le très beau film de Robin Campillo sur la lutte contre le sida en France dans les années 80. C'est Bain de Culture, c'est Médien, merci d'être avec nous. Très bon dimanche, excellent week-end. Retour à Noisy-le-Sec, retour au festival du film franco-arabe, vainqueur du prix du public, Ashraf Ajraoui pour son court-métrage La Chouma, la réaction du lauréat avec Aurélien Devernois.
Comment on sent quand on a gagné un prix à ce festival du film franco-arabe ?
On est plein de joie, on est heureux. C'est surprenant parce que la programmation était de qualité. Moi j'ai vu tous les films, j'étais déjà très content d'être dans la section. Et on est encore plus content parce qu'on a, on remporte un prix. Et puis, c'est pas n'importe quel prix, c'est le prix du public. Donc, c'est très appréciable.
Vous pouvez nous parler un peu de votre film. Alors, ça s'appelle, c'est un mot que tout le monde connaît de part et d'autre de la Méditerranée, ça s'appelle l'Archouma.
Alors, l'Archouma, pour les auditeurs, vous devez le savoir, ça veut dire la honte. Voilà, je voulais faire un film sur la honte parce que c'est un sentiment que je connais plutôt bien pour plein de raisons. Et voilà, j'ai voulu en parler à travers une histoire assez simple. Il faut quand même savoir que c'est un film qui est né de ses contraintes. C'est un film sans argent. On m'a prêté du matériel pour un jour. Et de là, je suis parti en écriture. Je me suis dit comment je peux parler du sentiment de la honte avec un scénario que je pourrais potentiellement tourner en une journée. Et voilà, c'est un ode, c'est un film hommage à tous les artistes passionnés, talentueux qui sont autour de moi, qui travaillent dur et qui en attendant de vivre de leur art, sont obligés de vivre de petits boulots, alors qu'ils voient tout le monde autour d'eux avancer, construire, et ils ont un peu la sensation d'être un peu des losers, quoi, parce qu'ils avancent pas dans la vie, quoi. Et voilà, et comme souvent dans la vie, le plus gros obstacle, souvent, c'est nous-mêmes.
Oui, on se met dans les conditions de vivre cette honte.
C'est ça. Ben, l'idée, c'était de créer de l'empathie avec un personnage d'origine maghrébine, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure sur scène, bien souvent dans la fiction, les personnages dits de la diversité, c'est souvent des menaces, c'est souvent des caricatures. Et c'est vrai que moi, je me retrouve pas ou très peu dans ces personnages-là. Pourtant, j'ai une double culture. Je suis né en France, je suis d'origine maghrébine, je suis de confession musulmane. Et tout ce qui me constitue, je le vois pas ou très peu ou à outrance. Et voilà, c'est un peu de cette frustration qu'est née aussi l'envie d'écrire et de raconter nos histoires nous-mêmes, quoi.
Et comment on sent, du coup, quand on est dans un festival comme celui-là qui, justement, donne la parole ou donne à voir des choses qu'on ne voit pas forcément beaucoup en France ou dans les grosses productions françaises, en tout cas?
Je dirais qu'on se sent au bon endroit. On se sent au bon endroit. Après, j'ai eu de la chance, c'est quand même un court-métrage qui a bien tourné en festival. Au début, on se disait que peut-être on aurait que des festivals urbains ou en Île-de-France. Et très vite, le court-métrage a voyagé dans toute la France, quelques pays en Europe et aux États-Unis. Et à un moment, on se dit qu'on tient un truc qui est plutôt universel. Et le plus beau compliment quand on parle du film, c'est de me dire « j'étais mal pour lui, j'avais de l'empathie pour lui ». Et ça veut bien dire qu'on dépasse l'identité, quoi.
Il y a pas mal de réalisateurs, d'acteurs qui sont passés par ce festival et qui aujourd'hui, maintenant, arrivent à faire des gros films, des séries. Je parlais avec le parrain tout à l'heure. Ça donne envie ?
Bien sûr que ça donne envie. Bien sûr que ça donne envie. C'est inspirant. C'est inspirant. On se dit que potentiellement, peut-être qu'un jour, on sera à leur place et on sortira le long en salle. La route est encore longue, mais Inch'Allah, comme on dit chez moi.
C'est quoi le prochain objectif, justement?
Le prochain objectif, c'est d'apprendre en faisant et d'en faire un produit, déjà, un court-métrage produit, peut-être deux, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on s'en tirera prêt pour faire un long. C'est dur de, comme c'est indiqué dans le long, c'est long de faire un long. Donc voilà, continuer lentement mais sûrement. Hein.
Et donc ce court-métrage, il va être présenté au Maroc très bientôt.
C'est ça. On va faire la grande première au mois de décembre au Festival Immigration d'Agadir. C'est un honneur parce que mes parents sont originaires du Maroc. Ils ne l'ont pas encore vu depuis un an parce que je voulais avoir une projection près de la maison. Moi, je suis originaire d'Avignon. Ça ne s'est pas fait. Et du coup, ils le verront chez eux au Maroc.
Ils vont venir avec vous à Agadir?
D'une paire de coups, ils vont venir en vacances au Maroc et puis ils vont faire le trajet pour venir à Agadir le voir.
Vous n'avez pas la pression que vos parents voient le film? C'est souvent un moment qui n'est pas toujours évident.
J'ai la pression, en même temps je suis un peu conforté parce que le film a bien voyagé. C'est l'envie de bien faire et c'est envie de... Ouais, t'as envie qu'ils soient fiers de toi, quoi. Mais il n'y a pas de raison que... Il n'y a pas de raison que ça leur plaise pas.
Il n'y a pas de raison qu'ils vous mettent l'archouma.
Bien joué. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tout ce qu'on fait, c'est au final, on cherche la validation de nos parents. Et ouais, c'est pour les rendre fiers.
Voilà, Achraf Hajraoui, prix du public cette année au micro d'Aurélien Devernois, au palmarès également, le Tunisien Dridi Mouti, meilleure fiction pour Gauche-Droite, et la Française Chloé Maslow, prix du meilleur documentaire pour Asmahan, la diva. Encore une petite pause musicale, extrait de la bande originale du film Moulin Rouge à 13 ans, comme What May avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Au passage, ce sont leurs voix, c'est eux qui chantent, ils s'en sortent plutôt bien. Merci d'être avec nous, c'est Bain de Culture, on est ensemble encore pour quelques minutes. interrompre Nicole Kidman. Comme c'est inélégant, la 18e édition du Festival International du Film de Marrakech à partir de vendredi prochain, c'est jusqu'au samedi qui suit, le 7 décembre, un événement lié à Médien partenaire comme chaque année du festival. Sur place, il y aura bien évidemment Bilal Marmide, notre spécialiste cinéma, et puis évidemment Montassir, qui dit festival dit Montassir. Merci de votre fidélité à la radio du Grand Maghreb, merci de votre fidélité à Bain de Culture. On se quitte en musique, encore une fois avec ce titre des années 80. Visage, Fade to Grey, il est présent ce titre dans le film Lawrence Anyway de Lawrence Anyways de Xavier Dolan. Très belle scène au passage. À la semaine prochaine.
Anglais, autant les notes qu'une chanson.